Bon, eh bien, tout d'abord, je tiens à vous saluer, vous toutes et tous qui êtes venus ce soir pour participer au meeting de notre camarade Nathalie Arthaud. Cette terre ouvrière de Picardie est en première ligne des coups reçus par les travailleurs de la part des grands groupes capitalistes. Mais malgré les obstacles et les coups reçus, la tradition de révolte et de combat est toujours bien vivante ici. Et si mon salut va à tous les travailleurs présents ici ce soir, je tiens à remercier tout particulièrement mes camarades de Chausson, venus encore nombreux aujourd'hui, comme ceux de Continental. Les uns comme les autres, vous avez été le symbole des luttes ouvrières acharnées qui ont marqué la conscience ouvrière de notre région. Oui, l'esprit de révolte est toujours présent autour de nous et ne demande qu'une occasion pour se transformer demain en un mouvement que rien ne pourra arrêter. Alors, au nom de tous, je tiens à dire à notre camarade qu'elle est bienvenue sur cette terre ouvrière de Picardie et tout de suite, je lui donne la parole.
Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Je serai la seule candidate communiste dans cette élection présidentielle. Je me revendique du communisme, non pas de la caricature qu'en a donné le régime des bureaucrates dans l'Union soviétique ou dans les pays de l'Est. Je ne me revendique pas plus de la Chine, qui derrière une étiquette communiste dissimule un capitalisme sauvage. Je me revendique du communisme tel qu'en ont rêvé des générations d'ouvriers, d'une société débarrassée de la dictature de l'argent, de l'exploitation, de la concurrence et des crises. Une société gérée fraternellement et démocratiquement par la collectivité de ceux qui travaillent et qui produisent. Je me revendique des idées d'émancipation sociale qui ont inspiré les communards en France et que les ouvriers russes ont commencé à réaliser en 1917. Le courant communiste est aussi ancien que l'est le mouvement ouvrier lui-même. Il a été porté par des générations de femmes et d'hommes qui ne pouvaient pas accepter l'idée que la société capitaliste puisse être l'avenir de l'humanité, alors qu'elle est aussi injuste qu'aveugle. À certains moments, ce courant a été représenté par des grands partis, comme l'était le Parti Socialiste à sa naissance, ou le Parti Communiste un peu plus tard. Au fil du temps, et sous la pression du capitalisme, les directions de ces grands partis ont trahi leur cause pour s'intégrer dans le système et pour limiter leurs aspirations politiques à devenir les gérants loyaux d'une société dominée par le grand capital. Le courant communiste révolutionnaire a donc connu des hauts et des bas. Mais il n'a jamais disparu. Il y a toujours eu des femmes et des hommes pour défendre la perspective de la révolution sociale, la perspective d'une société sans classe sociale, sans l'exploitation capitaliste. Ce courant a systématiquement pris le contre-pied du fatalisme et de l'acceptation prêchée par la bourgeoisie. Et il s'est battu, au contraire, pour que les travailleurs qui font tout tourner dans l'économie prennent conscience qu'ils peuvent aussi la diriger et qu'ils pourraient collectivement le faire mille fois mieux que ne le font aujourd'hui les capitalistes. Et si le courant communiste révolutionnaire a toujours refusé de s'intégrer au système politique de la bourgeoisie, il a toujours tenu à se faire entendre dans toutes les élections. Eh bien, c'est ce courant que je veux représenter dans cette campagne pour l'élection présidentielle. Toutes celles et ceux qui sont convaincus que cette société d'exploitation est à renverser et qu'il n'y a rien à garder du système capitaliste doivent l'affirmer. Et toutes celles et ceux qui sont fiers d'avoir conservé envers et contre tout leurs idéaux, leurs rêves et leurs convictions que l'avenir ne peut être que dans une société communiste doivent l'exprimer. Même dans les élections, on peut lever le drapeau de la révolution sociale. Oui, même dans les élections, on peut lever ce drapeau de la révolution sociale. Et ce, d'autant plus que la faillite de ceux qui dirigent l'économie est manifeste. Et d'autant plus qu'il est patent qu'une économie basée sur la loi du profit, la concurrence et la propriété privée nous emmène dans le mur. Il faut que dans cette élection se manifeste un courant politique qui se place du point de vue des travailleurs, et exclusivement de ce point de vue. Tous ceux qui ont subi un licenciement le savent. Un salarié qui perd son emploi et son salaire perd tout. C'est l'angoisse du lendemain, et c'est le début de la plongée vers la pauvreté. Toute la société souffre du chômage. Ceux qui en sont frappés et leurs familles, mais ceux aussi qui sont encore en activité, mais qui vivent avec ce chantage et sous la menace d'un licenciement. Et puis aussi les petits commerçants, les artisans, dont le revenu est lié au salaire des travailleurs. Dans les quartiers populaires, laissés à l'abandon, le chômage est à la base de l'insécurité, de la violence, du chacun pour soi, du communautarisme. Alors oui, le chômage, c'est le fléau des classes populaires. Et depuis 30 ans, tous les gouvernements qui se succèdent, de droite et de gauche, ont montré qu'ils étaient incapables de mettre fin au chômage. Leur seule solution, c'est d'accorder des faveurs au grand patronat, des allègements fiscaux, des diminutions de cotisations patronales censées inciter les patrons à embaucher. En matière d'exonération de cotisations, l'imagination de la droite comme de la gauche est sans limite. Mais les patrons encaissent les cadeaux, ils profitent des dégrèvements, mais ils n'embauchent pas. Eh bien, puisque l'incitation ne marche pas, il faut leur imposer des mesures contraignantes. Il faut interdire les licenciements sous peine d'expropriation. Quand nous disons qu'il faut interdire les licenciements, on nous oppose que ce n'est pas possible, que ce n'est pas réaliste, parce que cela risquerait de ruiner les entreprises. Mais les travailleurs, eux, quand ils se retrouvent sur le carreau, eh bien ils sont plongés dans les pires difficultés. Ce sont les impayés qui s'accumulent, les découvertes bancaires, les agios, les menaces de coupure de téléphone, d'électricité. Et il faudrait qu'ils se débrouillent, qu'ils aillent au restaurant du cœur, qu'ils arrêtent de se soigner. Eh bien non, c'est leur vie, c'est leur emploi et c'est leur salaire qu'il faut préserver d'abord et avant tout. Et tous les autres candidats n'imaginent pas ou refusent de mettre en avant ces revendications vitales pour les travailleurs. Ils ne l'imaginent pas ou ils le refusent parce qu'ils craignent de gêner les affaires de la bourgeoisie. Ils n'imaginent rien d'autre qu'une politique favorable ou acceptable par la bourgeoisie. Eh bien, il n'y a aucune raison de leur laisser dans cette élection le monopole de la parole. Dans cette élection, il faut dire que non, ce n'est pas aux classes populaires de payer la crise, et c'est aux possédants d'assumer financièrement les ratés de leur économie. Il faut un courant qui affirme qu'il est vital, urgent, d'imposer et de contraindre la bourgeoisie à payer pour assurer et garantir les emplois, les salaires, les retraites, les services publics, et ce, quoi qu'il en coûte à la bourgeoisie. Et si les profits d'aujourd'hui ne suffisent pas, eh bien il faut forcer les capitalistes à puiser dans les profits passés, et même dans les fortunes privées accumulées au fil du temps. Ce qui sera déterminant dans l'avenir, c'est qu'il y ait des femmes et des hommes prêts à en découdre avec le patronat. Parce qu'avec la crise, eh bien la lutte de classe devient de plus en plus violente. Confrontés à la crise, les capitalistes compensent leurs pertes en aggravant l'exploitation. Ce sont les cadences qui augmentent, les pressions pour en faire toujours plus, les minutes de pause volées, les heures supplémentaires qui sont oubliées sur les fiches de paye, les horaires de travail, toujours plus dingues. Ce sont les accidents du travail, maquillés, en arrêt maladie. Ce sont les intérimaires, les stagiaires, ils sont renvoyés du jour au lendemain. Et le boulot qui retombe sur ceux qui restent. Tout est bon pour baisser la masse salariale. À commencer par les licenciements et les fermetures de sites. Faire la liste des grands groupes capitalistes qui ont licencié ou supprimé des emplois depuis 3 ans est impossible parce qu'ils l'ont quasiment tous fait. En 3 ans, 900 usines ont fermé dans le pays. Une usine par jour. Et il y a eu 1 million de chômeurs de plus sur les 5 dernières années. 1 million qui s'est rajouté aux 3 millions de femmes et d'hommes déjà privés de travail. Comment après cela être surpris que plus de 11 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et que les restaurants du cœur sont assaillis? Et tout ça pourquoi? Eh bien pour que les dividendes des actionnaires soient préservés. Tout ça pour que les fortunes des plus riches soient garanties. Alors on nous dit que c'est la crise. Ça, personne ne peut le nier. Mais ce n'est pas la crise qui fait que le grand patronat s'en sort indemne, qu'il s'en sort avec tous ses profits et que ce sont les travailleurs qui payent. Non, ça, c'est le résultat de la lutte de classe. Alors beaucoup s'étonnent que dans ce contexte de lutte de classe de plus en plus violente, il n'y ait pas plus de réaction de la part des travailleurs. Mais la crise que nous vivons est souvent comparée à la crise mondiale de 1929. Eh bien, à l'époque, il a fallu attendre 1934 aux États-Unis, 1936 en Espagne et en France, pour que les travailleurs trouvent le chemin des luttes et de la grève générale. Il a fallu des années pour que les travailleurs passent de la résignation, du désespoir impuissant, voire réactionnaire, à l'espoir d'inverser le cours des choses. Eh bien, aujourd'hui, la matière explosive s'accumule dans la classe ouvrière. Et le moment de la révolte de millions de femmes et d'hommes viendra, tôt ou tard. Eh bien, il faut que dans cette révolte, les travailleurs aient une politique, qu'ils sachent pourquoi se battre et comment faire pour inverser durablement le rapport de force avec la classe capitaliste. Le patronat est donc à l'offensive. Et il a, en la personne de Sarkozy, trouvé son porte-parole idéal et son serviteur zélé. Un serviteur zélé qui s'emploie dans cette campagne à s'adresser à son électorat, la bourgeoisie, petite et moyenne, qui se cramponne à sa propriété, qui méprise les salariés et qui vote traditionnellement à droite. Dans les discours de Sarkozy, comme celui de Villepinte, il y a toujours de quoi chatouiller agréablement les oreilles de tous les petits patrons réactionnaires. De tous ces petits patrons prompts à assimiler les salariés à des fainéants et à considérer que ceux qui sont au chômage l'ont bien cherché. Les chômeurs et les allocataires du RSA n'ont droit qu'au mépris et sont systématiquement traités d'assistés. Les chômeurs ont d'ailleurs toujours droit, eux, à la leçon des droits et des devoirs, comme s'ils ne faisaient pas tout ce qu'ils pouvaient pour retrouver un emploi. Le mérite, l'enrichissement et la réussite sont toujours présentés par Sarkozy comme s'ils étaient le résultat du travail et de l'effort. Mais il n'y en a pas pour chatouiller les oreilles du patronat, petit et grand. Il y a aussi des promesses sonnantes et trébuchantes à leur égard. Sarkozy a par exemple promis une nouvelle exonération de cotisations patronales. Ce cadeau s'adresse cette fois aux patrons qui embaucheraient des travailleurs de plus de 55 ans, à qui il serait accordé rien moins qu'une exonération totale et permanente de cotisations. Il y a déjà les exonérations pour l'embauche de jeunes, pour l'embauche de smicards, pour l'embauche de travailleurs handicapés. Eh bien, voici maintenant les exonérations pour l'embauche d'anciens. Eh bien, à ce rythme, Sarkozy va finir par décréter l'exonération totale et permanente de toutes les cotisations sociales, dans tous les cas, et ainsi, ses amis du MEDEF seront comblés. Tout ça, alors que la campagne est marquée par le chantage à la dette, alors que Sarkozy répète, semaine après semaine, qu'il ne peut être question de dépenser un centime de plus, et que l'État est au bord de la faillite. Eh bien, dans ce contexte, voilà qu'il trouve soudain assez d'argent pour offrir un nouveau cadeau de quelques milliards au patronat. Et évidemment, Sarkozy ne loupe jamais une occasion de s'en prendre aux travailleurs immigrés. Il utilise les préjugés les plus abjects, les mensonges les plus grossiers. Il a par exemple présenté les vieux travailleurs immigrés comme des profiteurs d'allocations. Eux, que le patronat a usé jusqu'à la corde sur les chaînes de production, dans le bâtiment ou dans le nettoyage. Et pourquoi y aurait-il donc trop d'étrangers en France? Au prétexte que c'est la crise? Au prétexte qu'il n'y a plus de travail, il faudrait dire à tous ceux qui ont trimé et qui continuent de trimer dans les travaux publics, dans la restauration, dans les hôpitaux, qu'il n'y a plus besoin d'eux et qu'ils n'ont qu'à crever. Et après, qui y aura-t-il de trop dans la société? Les jeunes? Parce que les jeunes aussi sont les premiers frappés par le chômage. Et ensuite, ce sera qui? Ce sera autour des femmes? Parce qu'on entendra certains dire que les femmes peuvent bien rester à leur fourneau? Eh bien non. Non, il n'y a aucun travailleur de trop dans la société. Et l'intérêt collectif, ce serait de répartir le travail et les efforts entre tous et d'avoir chacun un salaire qui permette de vivre. Mais cela, eh bien, il faudra l'imposer au patronat. Et pour l'imposer, eh bien, il ne faudra pas se laisser diviser, mais il faudra au contraire unir toutes nos forces. Et je tiens à dire que les réactionnaires de droite et de gauche qui s'opposent à l'idée de la régularisation de tous les sans-papiers et qui s'opposent au droit de vote des travailleurs immigrés dans toutes les élections ne l'emporteront pas au paradis des urnes, parce qu'en cas de grande lutte, eh bien tous les travailleurs se retrouveront côte à côte, français ou immigrés, avec ou sans papier. Ils se retrouveront dans la même fraternité de la lutte collective, de la lutte des travailleurs de toutes origines et de toutes nationalités contre les capitalistes de toutes nationalités. Sarkozy cherche tout de même des voix auprès des ouvriers. Alors il essaye de refaire le coup du président du peuple, proche de la France, qui se lève tôt. Mais il pourra visiter autant d'usines qu'il voudra. Et il pourra même, s'il le veut, enfiler un bleu de travail. Ce n'est pas ce cirque qui en fera un candidat du peuple. Parce qu'on en a soupé des promesses de Sarkozy. Sarkozy monte en épingle la reprise de l'usine Le Jalli, dit Saint-Jean, par son ami Bernard Arnault. Et celle de Photowatt, par un autre ami, Proglio, patron d'EDF. Pour les travailleurs concernés qui ont réussi à obtenir un sursis, c'est tant mieux. Mais cela ne peut que nous rappeler qu'il y a des milliers et des milliers d'ouvrières et d'ouvriers dans la même situation. Il y a bien sûr ceux dont on entend parler, les menaces de licenciement chez Petroplus, à ArcelorMittal, chez Peugeot Citroën. Mais il y a aussi tous ceux dont on n'entend pas parler, comme l'usine Merck dans l'Oise, comme l'usine Sodi Médical près de Troyes, comme les pépinières d'Elbar vers Montluçon. Enfin, je suis sûre que chacun d'entre vous peut encore rallonger cette longue liste. Et quand il ne s'agit pas de fermeture d'usine, eh bien il y a les plans dits sociaux. Comme aux Trois Suisses, par exemple, où il y a des renvois d'intérimaires. Des renvois d'intérimaires qui sont ni plus ni moins que des licenciements. Alors, quand Sarkozy se présente comme un sauveur d'entreprise, eh bien, il y a de quoi être en colère. Et quand Sarkozy nous explique qu'il vient de découvrir que certains groupes du CAC 40 ne payent pas d'impôts sur les sociétés, ou qu'il vient de découvrir l'existence de parachutes dorés inadmissibles et qu'il faut lutter contre les exilés fiscaux, eh bien, on se dit que oui, il n'aura aucun mal pour se reconvertir, parce qu'il pourra toujours se reconvertir dans le cinéma, comme acteur de série B, par exemple. Pas crédible sur le pouvoir d'achat, pas crédible dans la lutte contre le chômage, Sarkozy essaye de sauver la face en reprenant les couplets protectionnistes. Des couplets protectionnistes que l'on retrouve chez tous les autres candidats. De Le Pen à Hollande, en passant par Bayrou jusqu'à Mélenchon, ils trouvent tous le moyen de pousser leur petit cocorico. Le produire en France est devenu la réponse à tout. Mais présenter le produire en France comme un mot d'ordre pour les travailleurs est une escroquerie. Parce que dans cette économie, qui est-ce qui décide de produire? C'est vous? C'est moi? Ce sont les patrons qui décident de produire. Et quand ils décident de produire en France, ce n'est pas pour nos beaux yeux, c'est pour faire des profits. C'est eux qui ont le pouvoir de décision. C'est eux qui en jouent du produire français. Ils savent faire le chantage aux subventions, le chantage aux exonérations de cotisations sociales. Et quand il touche ainsi des millions d'aides publiques, c'est de nos poches que cela sort. Et cela va directement enrichir leurs profits privés. Alors les travailleurs qui se laissent prendre à ce mot d'ordre ne font que tirer les marrons du feu pour le patronat. Si les travailleurs veulent reprendre le contrôle de leur emploi, de leur salaire et de leur avenir, il ne faut pas qu'ils comptent sur la bonne volonté patronale, et encore moins sur leur patriotisme. Parce que la seule patrie que les patrons connaissent, c'est leur portefeuille, c'est leur coffre-fort. Regardez les exilés fiscaux, regardez le succès de tous ces paradis fiscaux. Alors, pour défendre les emplois, les travailleurs doivent se concentrer sur leurs revendications à eux, sur leur emploi, sur leur salaire, sur leur retraite. Et ils peuvent peser, de par leur force collective, sur les décisions patronales. Et s'ils veulent reprendre en main la direction de l'économie, si les travailleurs veulent avoir leur mot à dire sur comment la production est organisée, sur où elle est organisée, eh bien, il faudra qu'ils exproprient la classe capitaliste. Avec ce genre de discours, les étrangers, avec les discours protectionnistes, tout le monde sert la soupe à Marine Le Pen, de la droite jusqu'à la gauche. Le protectionnisme, la démondialisation, c'est la version moderne de la propagande nationaliste qui était dans le passé le terrain de prédilection de l'extrême droite. Et bien que ces idées soient aussi véhiculées à gauche, ne change rien au fait que c'est un poison pour les exploiter. Dans cette période de crise, il n'est d'ailleurs pas impossible que les États capitalistes en viennent eux-mêmes à remettre en cause les accords financiers ou commerciaux internationaux. Nous allons peut-être vivre une phase de remontée du protectionnisme. Mais souvenons-nous, la dernière fois que les grandes puissances ont opéré ce genre de repli protectionniste, c'était à la suite de la crise des années 1930, et cela a mené à la Seconde Guerre mondiale. Alors personne ne peut dire où nous mènera la crise du capitalisme actuel. Mais ce qui est certain, c'est que pour la classe ouvrière, il n'y aura d'issue qu'à travers des luttes pour défendre ses intérêts propres et qu'à travers la conscience d'être à l'échelle du monde une seule et même classe d'exploités. Comme Sarkozy, comme les autres, Marine Le Pen sait trouver les mots pour dénoncer les abus, pour dénoncer les plus riches, pour dénoncer le CAC 40. Mais elle défend la propriété privée capitaliste. Elle défend la société telle qu'elle est, avec l'exploitation, avec ses inégalités et avec ses injustices. L'extrême droite associée au pouvoir, ce serait la classe ouvrière mise au pas. Parce que les travailleurs, Marine Le Pen les aime. Mais elle les aime comme le patronat les aime, c'est-à-dire avec le doigt sur la couture du pantalon. Marine Le Pen s'adresse aux travailleurs résignés, aux travailleurs désespérés. Mais quand les travailleurs se battent, quand les travailleurs font grève, eh bien c'est la première à hurler avec les loups. Le Front National vise comme le patronat à diviser les travailleurs. Il affaiblit les travailleurs en jetant en pâture nos camarades de travail, les travailleurs immigrés, nos compagnons d'exploitation. Eh bien, rien que cela fait de Marine Le Pen une ennemie mortelle pour la classe ouvrière. Beaucoup autour de nous se disent qu'il faut dans cette élection au moins se débarrasser de Sarkozy. Que ce sera déjà pas mal. Oh, c'est sûr que ce sera bon débarras. Mais le lendemain du 6 mai 2012, eh bien, on aura toujours en face de nous ce même patronat rapace. Et si certains patrons prennent aujourd'hui des gants parce qu'on est en période électorale, eh bien, une fois l'élection passée, ils procéderont au licenciement et aux fermetures d'usines qu'ils ont programmées. Parce que la crise, eh bien, elle est loin d'être terminée. Et le patronat va continuer à la faire payer aux travailleurs. Et si Hollande est élu, qu'est-ce qu'il fera? S'opposera-t-il aux fermetures d'usines? Est-ce qu'il forcera le patronat à embaucher les jeunes? Est-ce qu'il obligera les patrons à augmenter les salaires? Eh bien non, Non, il ne le fera pas parce que le Parti Socialiste au pouvoir ne l'a jamais fait. Et tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans sa campagne, il ne le promet pas. Hollande ne s'est engagé à rien vis-à-vis des travailleurs. Il ne s'est engagé à rien parce qu'il ne veut rien imposer à la bourgeoisie. Il ne veut pas la contraindre à quoi que ce soit. C'est le grand patronat qui gouverne réellement, qui impose ses diktats. Mais Hollande ne veut le forcer à rien. Que ce soit sur la promesse des contrats de génération, sur la création des emplois dans l'éducation ou même sur la retraite, Hollande s'en tient au strict minimum, tout en expliquant que ces maigres mesures sont en plus conditionnées à la croissance et qu'il faudra payer la dette, d'abord et avant tout. C'est vrai qu'il arrive de temps en temps à Hollande d'avoir un petit peu d'audace. Lorsqu'il a annoncé par exemple qu'il remettrait à plat le quotient familial, qui fait en effet la part belle aux familles riches. Mais il n'a pas fallu une semaine pour qu'il recule et pour qu'il s'excuse platement. Et puis de l'audace, il en a eu aussi quand il a annoncé une tranche de 75% sur les revenus dépassant le million d'euros. Mais aussitôt la mesure annoncée, aussitôt la marche arrière a été enclenchée. Dès le lendemain de son annonce, Hollande a tenu à rassurer tout le Bollinge en expliquant que ce serait une mesure symbolique. Ensuite, il a précisé que cette mesure symbolique serait en plus temporaire, pour un temps limité, pour une période donc très exceptionnelle. Et puis, le coup de grâce a été donné par Fabius, qui a proposé de plafonner l'impôt de sorte que cette mesure ne puisse être considérée comme confiscatoire. Idée qui a ensuite été confirmée par Hollande. Eh bien, Fabius et Hollande ont tout simplement réinventé le bouclier fiscal à la sauce du Parti Socialiste. Alors, plus on se rapproche des élections, et plus les différences s'amenuisent entre le candidat de gauche et le candidat de droite. Alors que la droite nous promet une rigueur de droite, eh bien la gauche nous promet une rigueur de gauche. Et si l'on tourne la page de la droite et de son bouclier fiscal, eh bien on aura droit au bouclier fiscal du Parti Socialiste. Eh bien nous ne pourrons pas dire que nous n'avons pas été prévenus. Si futur gouvernement socialiste il y a, il fera ce que la finance lui imposera. Et nul doute que si la crise s'aggrave, que le gouvernement soit de droite ou de gauche, il imposera aux travailleurs les mêmes sacrifices imposés aujourd'hui aux travailleurs grecs, aux travailleurs espagnols. Les amputations de salaires et de retraite, la démolition des services publics et le chômage forcé. Alors, on entend de tous côtés qu'il faut battre Sarkozy et que cela ne peut pas être pire. Mais si, si, cela peut être pire. Cela peut être pire parce que la crise peut se poursuivre et s'aggraver. Et que ce soit Hollande ou Sarkozy, eh bien, les coups tomberont. Et si les coups viennent de la gauche, cela ne les rendra pas meilleurs. Alors, plutôt que de nous bercer d'illusions, eh bien, préparons-nous à nous défendre par nous-mêmes, par nos propres luttes. Les travailleurs n'ont que trop payé dans cette crise. Les licenciements se sont multipliés, la pauvreté a explosé. Alors il est urgent et nécessaire pour les travailleurs de réagir et de se battre. Il faut aux travailleurs un programme de lutte. Le premier objectif de ce programme, c'est d'abord et avant tout imposer l'interdiction des licenciements. Dès que les commandes et l'activité diminuent du fait de la crise, dès même que le patronat anticipe une petite baisse de la production, eh bien, il renvoie les intérimaires, il renvoie les CDD, il supprime des emplois et il aggrave les conditions de travail pour tous ceux qui restent. Le patronat maintient comme cela le même niveau de profit et de rentabilité malgré la crise, parce qu'il se sert des travailleurs, de leur emploi et de leur salaire pour amortir ses pertes. Eh bien, s'il y a moins de travail à faire, il faut forcer le patronat à le répartir entre tous les travailleurs, qu'il baisse les cadences, qu'il diminue les horaires, mais qu'il garde tous les travailleurs et qu'il garantisse les salaires. Qu'il répartisse le travail entre tous les travailleurs et qu'il maintienne les salaires à 100%. Et puis, il faut embaucher dans les services publics. Il suffit d'écouter le personnel hospitalier surchargé, les infirmières, les aides-soignantes, incapables de prendre leur jour de repos, pour comprendre qu'il faut embaucher dans les hôpitaux et répartir le travail entre tous. Et puis, bien sûr, il y a de quoi embaucher dans les écoles, à la poste, dans les transports. Et il faudrait même développer de nouveaux services publics. Parmi les domaines où la défaillance du secteur privé est dramatique, il y a le domaine du logement. Désormais, les expulsions locatives vont reprendre. Près de 100 000 familles sont menacées d'être expulsées de leur logement. Combien parmi elles vont se retrouver à errer de chambre d'hôtel en chambre d'hôtel si elles ne se retrouvent pas tout simplement à la rue ? La difficulté pour ces familles prend sa source dans l'absence d'un salaire digne, dans l'absence d'un véritable emploi. Mais elle est liée aussi au manque cruel de logements sociaux, au manque de loyers, au manque de logements, au loyer abordable pour des familles populaires. Et ce qui est révoltant, c'est que le problème ne date pas d'hier. Et ce qui est d'autant plus révoltant, c'est que la solution est tout à fait à la portée de l'État. Pourquoi ? Alors que l'État supporte, par exemple, l'essentiel des dépenses de l'industrie privée d'armement. Je tiens à rappeler que rien que le programme du Rafale aura coûté aux contribuables 40 milliards. Alors pourquoi ? L'État trouve de l'argent pour cela et il n'en trouverait pas pour préempter les terrains, développer son propre service de construction en embauchant directement les maçons, les ingénieurs, les architectes. L'État pourrait le faire directement, sans en passer par ses marchands de béton et par ses spécialistes de fausses factures. Et voilà comment on pourrait construire le million de logements qui manque aujourd'hui cruellement. Et il faut aussi imposer des augmentations de salaire et des augmentations des pensions de retraite. Et ce ne serait qu'un rattrapage, parce que ces dernières années, tous les prix ont augmenté. Depuis 2005, le gaz à lui seul a augmenté de 60%. Au 1er janvier, le gouvernement s'est vanté parce qu'il n'a augmenté le gaz que de 4,5%. Mais quel est le salaire, l'allocation ou la pension de retraite qui a augmenté de 4,5%? Et à cela, eh bien, il faut rajouter l'augmentation des loyers, des charges, du carburant, des produits alimentaires. Et c'est sur la santé que le gouvernement a imposé les sacrifices les plus lourds. Les franchises médicales, les déremboursements de médicaments, les dépassements d'honoraires se multiplient à tel point que se soigner est devenu un problème pour beaucoup. Alors oui, il faut un rattrapage sur les salaires et sur les retraites. Mais si l'on ne veut pas être sans cesse appauvri par l'augmentation des prix, il faut en plus obtenir l'indexation des salaires sur les prix, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. Les patrons s'appliquent à eux-mêmes l'échelle mobile. Dès qu'ils subissent une hausse de leurs achats, eh bien, ils peuvent la répercuter sur les prix. C'est facile pour eux, puisqu'ils fixent leurs prix, ils peuvent les adapter comme ils veulent. Il n'y a que les travailleurs qui ne sont pas maîtres de leurs revenus. Les travailleurs ne décident ni de leur salaire, ni de leur pension de retraite. Alors, à chaque hausse de prix, eh bien, il faut que les salaires, comme les retraites, comme le RSA, comme les allocations logement familial, comme l'allocation adulte handicapé, augmentent automatiquement. Pour ne pas se laisser appauvrir quand tous les prix augmentent, eh bien, il faut remettre d'actualité la lutte pour l'échelle mobile des salaires. Bien sûr, la bourgeoisie nous dit qu'elle n'a plus d'argent, qu'augmenter les salaires, ce n'est pas possible, que ça la ruinerait et que le pays a un problème de compétitivité. Mais les mêmes qui nous expliquent qu'ils ne peuvent plus cotiser pour la santé, pour la retraite, pour la famille, versent 200, 300 fois le SMIC à leur PDG. Les mêmes trouvent des dizaines de millions à verser à leurs actionnaires. Millions qui ensuite sont dilapidés dans des caprices de riches, ou pire encore, dans la spéculation. Alors, il faut que toute la lumière soit faite sur l'argent qu'il y a réellement dans les entreprises. Les travailleurs ont le droit de connaître ce que l'entreprise verse en salaire, ce qu'elle économise, du fait des multiples exonérations de cotisations sociales, du fait des niches fiscales. Les travailleurs ont le droit de connaître ce que l'entreprise verse en dividendes à ses actionnaires, ce qu'elle met en provision. Les patrons rabâchent que les travailleurs leur coûtent cher. Mais combien leur rapportent-ils? Et combien leur coûtent les actionnaires? Toute la société a intérêt à ces contrôles. Parce que les grosses entreprises ne se contentent pas d'exploiter leurs ouvriers, elles veulent aussi les consommateurs, leurs fournisseurs ou leurs clients quand ils sont moins puissants. Eh bien, il faut que l'on puisse connaître les conditions faites aux sous-traitants, les marges que les uns imposent aux autres, y compris le dessous de table. Il faut donner aux travailleurs les moyens légaux de tout dire de ce qu'ils voient sans être menacés de licenciement ou de mesures de rétorsion. Il faut supprimer le secret des affaires. Il arrive quelquefois aux petits paysans, étranglés par les prix trop bas proposés par la grande distribution, de faire des actions pour montrer la différence entre le prix que les grandes chaînes leur versent et le prix auquel le consommateur achète. Eh bien, ce sont des initiatives dont les travailleurs doivent s'inspirer, parce que les salariés ont infiniment plus de possibilités encore que les petits paysans pour procéder à ce type de contrôle au jour le jour. Les travailleurs sont en position pour dévoiler les petites et grandes magouilles et pour montrer le vol à grande échelle que caractérise l'activité économique des grands groupes capitalistes. Plus qu'un droit au contrôle, il faudrait même parler de devoir civique, parce que c'est la seule façon de dénoncer et d'empêcher les crimes patronaux. Ceux perpétrés par les banquiers et par les spéculateurs irresponsables, mais ceux aussi perpétrés par ces patrons qui sont prêts à sacrifier la santé des travailleurs au nom de la rentabilité, comme ce fut le cas de ces patrons qui ont empoisonné des centaines de milliers de travailleurs avec l'amiante. Cette mesure, eh bien, ce serait un objectif essentiel lors d'une lutte générale, parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs, en donnant de nouvelles armes aux travailleurs. Il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir, et ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative pour les empêcher de nuire. Les travailleurs pourraient contester la programmation des fermetures de sites, les licenciements. Ils pourraient s'opposer aux décisions qui font fi de la protection de l'environnement et qui vont à l'encontre de l'intérêt des consommateurs. La crise actuelle montre clairement que la classe capitaliste, que les banquiers, préoccupés par leur seul profit privé, sont trop irresponsables à l'égard des intérêts de la société. Mettre en cause leur pouvoir dictatorial sur les entreprises est une nécessité sociale. Pour que les entreprises et l'ensemble de l'économie tourne au profit de tous. Pour satisfaire les besoins de toute la population, il faut combattre la mainmise de la minorité capitaliste sur les grands moyens de production et les gérer collectivement le plus démocratiquement possible. Exproprier la classe capitaliste pour reprendre la maîtrise de l'économie est une nécessité. Et il faudra commencer par exproprier les banques. Et pas seulement parce que les banquiers se conduisent comme des irresponsables et qu'ils ont transformé les salles de banque en salles de casino, mais parce que ce sont les banques qui commandent toute l'économie. Prendre la maîtrise des banques, c'est contrôler l'essentiel de l'économie, l'énergie, les transports, la distribution, c'est décider de l'usage fait des capitaux, c'est les orienter dans des investissements utiles à la population. Exproprier les banquiers, c'est-à-dire nationaliser sans indemnité ni rachat et fusionner les banques en un seul établissement de crédit, eh bien ce sera un pas de géant fait en direction de la gestion de toute l'économie par les travailleurs. Avec l'expropriation des grands groupes du CAC 40 qui font la pluie et beau temps dans l'économie, les travailleurs pourraient ainsi reprendre la maîtrise de toute l'économie. Cela ne sera possible qu'au travers d'une mobilisation puissante des travailleurs, qu'au travers même d'une mobilisation révolutionnaire. Mais pour mettre fin à la dictature aveugle et nuisible d'une minorité sur l'économie, eh bien il n'y aura pas d'autre voie. Et dans ces luttes, La jeunesse, qui a toujours été à la pointe de la contestation, aura un rôle majeur à jouer. Alors, dans cette campagne, je m'adresse aussi aux jeunes, à tous ces jeunes des quartiers populaires qui, après avoir été exclus de l'école trop tôt, sont baladés de petits boulots en longue période de chômage. Ils savent que la vie de leurs parents n'a pas été rose, mais ils se disent qu'avec le chômage et qu'avec cette crise, pour eux, ça sera encore pire. Je veux m'adresser aussi à tous ces jeunes des quartiers populaires qui subissent le contrôle aux faciès, qui sont marginalisés et accusés ensuite, à longueur de journée, de tous les maux de la société. Je veux m'adresser aussi aux jeunes diplômés qui rêvent peut-être d'une carrière à la Steve Jobs ou à la Bill Gates, mais que la réalité cloue au comptoir d'un McDo ou à la caisse de supermarché. Eh bien, je dis à tous ces jeunes qu'ils ont raison d'être révoltés. Qu'est-ce que c'est que cette société où une minorité peut gagner sur une bonne affaire en quelques jours ce que ne gagnera jamais un salarié toute sa vie durant? Et qu'est-ce que c'est que cette société où on trouve des milliards pour les banquiers, pour les marchands d'armes, et où on nous dit qu'il n'y en a plus pour construire des hôpitaux, des écoles, des logements? Qu'est-ce que c'est que cette société où l'argent, les profits, le luxe comptent plus que la vie humaine? Alors oui, cette société fonctionne à l'envers et elle est condamnée à disparaître. Mais elle ne disparaîtra pas toute seule. Il faut des jeunes et des jeunes conscients du combat à mener. Il faut des jeunes et des moins jeunes qui ne s'arrêtent pas aux différences de religion, de sexe, d'origine, de couleur de peau, qui ne s'arrêtent pas aux différences de métier, aux différences, parce que les uns sont tombés dans le chômage, alors que les autres ont encore un emploi. Il faut des femmes et des hommes conscients, conscients de partager un sort commun et conscients de faire partie d'une seule et même classe d'exploités capables de changer la société. Sans même parler de la transformation de la société en profondeur, aucun grand progrès pour les travailleurs n'est venu des gouvernements. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, eh bien, ils l'ont arraché au patronat, par leur grève, par leurs manifestations. Il n'y a jamais eu de sauveur suprême pour les travailleurs. Pour toutes les victoires qu'ils ont remportées, eh bien, ils les ont gagnées de hautes luttes. Mais plus on approchera des élections, et plus on nous fera croire que notre sort dépend du bulletin que chacun glissera dans l'urne. Et il y a déjà une pression implicite ou explicite sur l'électorat de gauche pour le vote utile, c'est-à-dire pour le vote en faveur de Hollande dès le premier tour. Que ceux qui sont convaincus par Hollande votent pour lui, c'est dans l'ordre des choses. Mais ceux qui ne lui font pas confiance, et ceux qui ont encore en mémoire et sur le cœur les déceptions laissées par le Parti Socialiste chaque fois qu'il a gouverné, n'ont aucune raison de voter pour Hollande au premier tour. Ceux qui ont compris que Hollande fera ce que le patronat exigera de lui et qu'il les laissera seuls face à leur patron, n'ont aucune raison de voter Hollande au premier tour. Il faut que Hollande sache que même si la haine vis-à-vis de Sarkozy lui a permis d'être élu au second tour, eh bien, une fraction, au moins, de l'électorat ouvrier ne lui fait aucune confiance. Quant à Mélenchon, eh bien, il attirera un certain nombre d'électeurs de l'électorat populaire, critiques vis-à-vis de Hollande. Ses airs de tribun, ses envolées contre les puissances de l'argent peuvent plaire. Mais tout cela, c'est encore une fois pour nous faire croire que le salut pour les travailleurs viendra d'un changement de gouvernement. Et Mélenchon ne s'en cache pas. Son modèle en la matière est le gouvernement Mitterrand. Mais combien de travailleurs ont placé leurs espoirs dans Mitterrand, qui promettait de changer la vie, qui promettait même la rupture avec le capitalisme? Et combien parmi eux se sont sentis trahis parce qu'il a fini par se comporter comme n'importe quel patron, en bloquant les salaires, en licenciant à tour de bras dans la sidérurgie et même en glorifiant la bourse? Alors, des faiseurs d'illusions gouvernementales, il y en a toujours eu. Et toute notre politique consiste à les dévoiler auprès des travailleurs, à prévenir les travailleurs des mauvais coups et des désillusions et à les armer politiquement pour affronter l'avenir. travailleurs et les plus pauvres ont appris, à leurs dépens, que l'arrivée de la gauche au pouvoir ne changeait rien pour eux. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient, quand ils ne prenaient pas fait et cause pour eux. Y compris les gouvernements de gauche, ceux de Mitterrand et de Jospin, et même quand ils avaient fait des promesses aux travailleurs. Alors, beaucoup sont écœurés devant le cirque politique. Et certains projettent de s'abstenir, convaincus que voter ne sert plus à rien. Certes, le vote ne peut pas changer la vie des travailleurs. Mais il offre une occasion d'exprimer sa colère. Pourquoi garder son poing dans sa poche et se taire quand on a l'occasion d'exprimer une colère consciente et de lever le drapeau des luttes? Des générations de travailleurs se sont battus pour avoir le droit de s'exprimer et pour avoir le droit de voter. Et bien des peuples se battent encore aujourd'hui pour conquérir ce droit, en Égypte, en Syrie. Eh bien nous, ce droit, nous l'avons. Eh bien nous devons nous en servir, et nous en servir, y compris pour dire que les élections ne changeront rien à la vie des travailleurs, et que ce qui peut changer, c'est d'inverser le rapport de force avec le patronat au travers des luttes collectives. Je serai la seule à ne pas dire « Votez pour moi, je ferai ceci, je ferai cela, et tout ira beaucoup mieux pour vous. » Non, voter pour ma candidature aura une toute autre signification. Voter pour ma candidature, ce sera exprimer la conviction que si les élections ne peuvent pas changer la vie, la lutte collective des exploités en a la force et la possibilité. Voter pour ma candidature, c'est affirmer que l'on n'est pas dupe devant ces alternances électorales, et c'est affirmer qu'il y a parmi les travailleurs des femmes et des hommes conscients d'avoir à se battre par eux-mêmes. Tous ceux qui voudront affirmer qu'il faudrait refaire un mai 68 pour imposer l'interdiction des licenciements, des augmentations de salaire et de retraite, et pour imposer un contrôle des travailleurs sur les entreprises et sur leur argent, pourront le dire en votant pour moi. Bien sûr, le vote ne remplace pas les luttes. Mais les luttes se préparent dans les têtes. Et on peut contribuer à les préparer dans les têtes de ceux qui nous entourent en popularisant un programme, des objectifs autour desquels on peut s'unir et se battre. Si, dans cette élection, nous nous retrouvons plusieurs centaines de milliers de ce programme de lutte, eh bien, ce sera un pas considérable qui préparera la suite qui se déroulera là où tous les changements se dessinent, c'est-à-dire dans les luttes. Oui, ce sera un vote utile. Et puis, une fois l'élection terminée et les urnes rangées, eh bien, il faut que le programme que nous avons défendu dans cette campagne continue de l'être après. Pour cela, il faut un parti qui représente les intérêts politiques et moraux de la classe ouvrière. Et celui-ci n'existera que lorsqu'il sera rejoint par plusieurs dizaines de milliers de femmes et d'hommes prêts à se consacrer à la transformation de la société. Il n'existera vraiment que lorsqu'il pourra être présent et actif dans tous les domaines de la vie sociale. Dans les entreprises d'abord, parce que c'est là que se mène jour après jour cette lutte de classe, et parce que c'est là que se décidera l'issue du combat entre les classes sociales. Mais il faut que ce parti soit présent aussi partout ailleurs, dans les quartiers populaires, dans les écoles où se forme la jeunesse, dans tous les domaines qui touchent à la vie des travailleurs. Nous sommes encore loin de cette situation, mais c'est cette présence de militants communistes qui peut aussi prendre le contre-pied de l'extrême droite et de toutes les forces réactionnaires de tous ordres qui essayent de capter à leur profit le mécontentement et la colère que la crise du capitalisme ne manquera pas de susciter. Alors, camarades et amis, en nous aidant dans cette campagne électorale, vous participerez à notre combat commun, à la propagation de toutes ces idées et de tous ces objectifs qui seront décisifs en cas de remontée des luttes. Alors votez et faites voter pour ma candidature, et une fois l'élection terminée, continuons ensemble ce combat.
Bon, et maintenant, pour qu'on... Oui, oui, je reconnais que, avant de chanter le chant intérieur, présenter avant qu'on s'en aille notre tribune, avec Catherine Cheminot, qui est à ma gauche. Vous avez un peu de retard. Agnès Dingival. Et Sébastien Ollier. Et donc maintenant, je vous invite à chanter le chant des travailleurs pour clôturer ce meeting, l'international. Debout les damnés de la terre, debout les forces. Vous avez la possibilité de participer au grand meeting national de campagne de notre camarade Nathalie Arthaud qui se tiendra le dimanche 15 avril au Zénith à Paris. Des cartes gratuites sont organisées dans le département, départ de Clermont-Craye, de Compiègne et de Beauvais. Vous pouvez vous y inscrire dès ce soir à la table de presse. De même, tous ceux qui voudraient nous aider de quelque façon que ce soit dans la dernière ligne droite de cette campagne peuvent le faire en laissant leurs coordonnées à la même table de presse. Maintenant, j'invite tous les amis qui ont réservé leur repas à se rendre au gymnase en sortant au fond à droite de la salle. Et je dis à tous, à très bientôt. Merci.